la convention a enfin, enfin voté le procès de la putain couronnée.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée cette semaine au procès de Marie-Antoinette en octobre 1793 qui conduira à son exécution. De quoi Marie-Antoinette était-elle coupable? C'est la question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Emmanuel de Varesquiel. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué les deux premiers jours du procès, commencé le 14 octobre 1793, qui va se terminer par le verdict.
Citoyen Gannet, est-il constant qu'il ait existé des manœuvres et intelligences avec les puissances étrangères pour leur donner l'entrée du territoire français?
Oui.
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 Deuxième question. Antoinette Capet a-t-elle coopéré à ces manœuvres? Citoyen Gannet.
Oui.
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 Troisième question. Est-il constant qu'il ait existé un complot tendant à allumer la guerre civile à l'intérieur de la République?
Oui.
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 Faites entrer l'accusé.
Le 16 octobre, après le passage à la barre du dernier témoin et la plaidoirie des avocats, l'accusé obtient le droit à une ultime déclaration. Hier, dit-elle, je ne connaissais pas les témoins, j'ignorais ce qu'ils allaient déposer. Eh bien, personne n'a articulé contre moi aucun fait positif. Je finis en observant que je n'étais que la femme de Louis XVI et qu'il fallait bien que je me conformasse à ses volontés. Ce sont ses derniers mots publics. Il est 4h30 du matin, lorsqu'à la lumière tremblante des chandeliers, le président du jury prononce le verdict. L'ex-reine de France est reconnue coupable.
Antoinette Capet, vous êtes condamnée à mort par décapitation. La sentence sera exécutée ce jour, 16 octobre 1793 à 11h, sur la place de la Révolution. Vos biens seront saisis.
Un des avocats de Marie-Antoinette racontera plus tard ce moment précis. Elle descendit les gradins sans proférer une parole ni faire aucun geste, traversa la salle comme sans rien voir ni rien entendre. Et lorsqu'elle fut arrivée devant la barrière où était le peuple, elle releva la tête avec majesté. En rejoignant sa cellule, la condamnée demande de quoi écrire et à la plume rédige une lettre à sa belle-sœur. « C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. » Je viens d'être condamnée non pas d'une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Je n'existais que pour eux et pour vous. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément. Qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. Adieu, ma bonne et tendre sœur, puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout cœur, ainsi que ses pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Il est 10h du matin quand Marie-Antoinette, cheveux coupés, robe blanche, mains liées dans le dos, monte dans la charrette qui doit la conduire à l'échafaud. La charrette, la voiture des condamnés ordinaires qui la rendra visible aux yeux de tous. Autre humiliation, on la force à s'asseoir dos à la marche. Au milieu de la foule des Parisiens, la charrette va mettre près de 2 heures pour parcourir les 4 kilomètres qui séparent le palais de justice de la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Plusieurs fois en chemin, on crache au visage de l'ex-reine. On lui montre le poing, on l'injurie. Mais Marie-Antoinette se tient droite, stoïque, l'air altier. La garce a été audacieuse et insolente jusqu'au bout, écrira Hébert avec rage. Il est presque midi quand la charrette atteint la place de la Révolution, noire de monde. Toujours droite, sans faiblir, Marie-Antoinette monte à la guillotine. Un instant plus tard, le bourreau Samson montre sa tête au peuple. 9 mois après l'exécution de Louis XVI, la monarchie est à nouveau décapitée. Emmanuel de Varesquiel, pourquoi ces marques d'humiliation jusqu'au dernier moment, la charrette, les mains liées dans le dos, la traversée de Paris sous les quolibets? Louis XVI avait eu droit à un peu plus d'égards parce qu'il était le roi ou parce qu'on n'en est pas au même moment de la Révolution?
Parce que c'est une femme et parce que cette procession de cette charrette d'infamie à travers la rue Saint-Honoré jusqu'à la place de la Révolution fait partie du rituel des exécutions révolutionnaires, qui sont aussi une forme d'exemple de démonstration rendue à la vengeance du peuple et à la consolation du peuple aussi. C'est très important dans le vocabulaire révolutionnaire. Certains voulaient même la faire monter à l'échafaud avec deux anciennes prostituées pour bien marquer sa condition de messaline et sa vie infamante, ou la vie infamante qu'on lui prête, en tout cas, jusqu'à la Révolution. Sur le trajet de cette charrette, conduite par la garde nationale, se trouve un peintre de génie, déjà célèbre, qui est l'auteur du Serment des Horaces et puis du Serment du Jeu de Paume, qui est membre du comité de sûreté générale et qui est l'un de ceux qui ont interrogé le petit Capet à la tour du Temple pour lui faire avouer cet inceste qu'on a prêté à Marie-Antoinette et qui s'appelle David. Et David, comme par vengeance dans un certain sens, croque le dernier portrait de Marie-Antoinette. C'est un dessin au crayon qui a été exposé d'ailleurs à l'occasion de la dernière exposition consacrée à Marie-Antoinette, qui est un portrait terrible, le portrait d'une mort vivante, d'une femme totalement enfermée en elle-même et qui probablement s'est confiée à la providence divine et qui n'existe plus ni pour les autres ni pour la vie. C'est un portrait d'une très très grande cruauté. C'est vraiment le dernier portrait de Marie-Antoinette vivante. On lui a prêté jusqu'au bout une frivolité qu'elle n'avait évidemment plus à ce moment-là depuis des années. Jusqu'au bout, on la caricature, on la... Du point de vue de la Révolution, en tout cas, on l'invente, on la montre en femme frivole.
Qu'est-ce qui s'est joué dans ce procès, Emmanuel de Varesquiel ? Dans votre livre, vous parlez de l'affrontement de deux mondes qui étaient devenus irréconciliables.
Tous les protagonistes de ce procès connaîtront, ou la plupart, un destin tragique, parce que les juges, les jurés du jury de jugement, après la chute de Robespierre, vont eux-mêmes comparaître devant ce même tribunal qui n'est évidemment pas mené dans le même sens politique. Et un certain nombre d'entre eux vont être condamnés à mort. Je pense en particulier, parmi les jurés, au peintre Châtelet. Et ça, c'est vraiment le vertige des destinées humaines est tout à fait extraordinaire.
Châtelet était l'un des peintres... C'est quelque chose que vous racontez très bien dans votre livre.
Châtelet était l'un des peintres favoris de Marie-Antoinette. C'est le peintre du plaisir de vivre tel que le décrit Talleyrand à la fin de l'Ancien Régime. Et puis, ce même Châtelet devient révolutionnaire, par conviction certainement, et finit par voter comme juge suppléant. Alors, il ne vote pas directement, mais il en aurait eu l'intention, la mort de son ancienne protectrice. On a là quelque chose de ces deux mondes qui s'affrontent. Un monde qui est celui de l'Ancien Régime, qui est incarné par cette reine, qui tient bon les droits de son fils et le droit divin de la monarchie, et de l'autre, le monde de la Révolution. Deux mondes qui se regardent, mais qui non seulement ne s'entendent pas, mais se haïssent. Et c'est en cela que ce procès est poignant, et qu'il est la manifestation, au fond, d'une impasse, comme toujours avec les guerres civiles. Et la manifestation, au fond, à travers cette enceinte du tribunal du révolutionnaire, de la salle de la liberté, de cette guerre civile en cours, et qui fera tout de même plusieurs dizaines de milliers de morts. Oui. Et c'est le procès, pour terminer, c'est le procès, je l'ai dit, d'une étrangère, c'est le procès d'une reine, bien entendu, c'est aussi le procès d'une femme et d'une mère. La Révolution, au fond, considère que les femmes sont à la limite d'être du côté de la contre-révolution, qu'elles sont inaptes à exercer la politique, par leur complexion même, et qu'elles ont influencer de façon négative la politique de la monarchie. Je pense à cette phrase de Vigier Lebrun, qui a été le grand peintre de Marie-Antoinette, au début de ses mémoires, quand elle dit, en parlant des dernières années de l'Ancien Régime, « Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées ». Il est vrai qu'il y a une forme de reprise par les hommes du pouvoir dont les révolutionnaires pensaient qu'il leur avait été confisqués et dépossédés par les femmes.
Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel. Je recommande vivement la lecture de votre livre « Les derniers jours de Marie-Antoinette » qui est paru en poche chez Talendier, un livre vraiment passionnant et qu'on lit comme un roman avec beaucoup de réflexions philosophiques associées. À lire également de vous deux ouvrages plus récents, « Il nous fallait des mythes, la révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours » et « Rien ne passe, tout s'oublie ». Les deux sont édités chez Talendier.